jour. C'est aujourd'hui le 24 août et c'est la grande fête de Saint-Barthélemy. Un apôtre qui, parfois on préfère appeler Nathanaël, car c'est le même apôtre, semble-t-il. Il s'appelle Nathanaël dans l'évangile de Saint-Jean. Il est très attachant par sa foi au Christ. C'est aussi la fête d'une sœur de la charité de Besançon, Jeanne Antide Touret, une femme étonnante, hein? Et puis, en parlant de la Saint-Barthélemy, bien, c'est aussi, pour les protestants, la commémoration d'un des moments les plus pénibles de leur histoire en France, quand la couronne française a décidé de massacrer, après la révocation de l'édit de Nantes, de massacrer les calvinistes français. C'est une époque épouvantable, c'est tragique, et moi ça me fait un chagrin immense quand je commémore tout ça. J'ai lu beaucoup à ce sujet, mais c'est aussi aujourd'hui l'anniversaire du décès d'une des femmes les plus remarquables du XXe siècle, Simone Veil. Rien à voir avec la Simone Veil qui vit toujours en France. Non, c'est la Simone Veil que je considère comme infiniment plus importante. Cette jeune juive qui est morte à 34 ans durant la guerre. Elle est morte en Angleterre, mais c'était une Française. Femme fantastique qui nous a été révélée par le père Joseph-Marie Perrin, un dominicain aveugle que j'ai eu la chance de rencontrer en France et qui m'avait beaucoup impressionné, et par Gustave Thibon, que j'ai bien connu aussi, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je commence donc par quelques mots sur Saint-Barthélemy, qui est l'un des 12 apôtres, n'est-ce pas, choisi par Jésus. Et il porte ce nom, donc, pour les évangélistes Matthieu, Marc et Luc, qui nous ont transmis, n'est-ce pas, une liste de ceux que le Seigneur avait choisi quand, après une nuit de prière, pour Jean, Saint Jean, fantastique, qui nous a été révélé par le père Joseph-Marie Perrin, un dominicain aveugle que j'ai eu la chance de rencontrer en France et qui m'avait beaucoup impressionné, et par Gustave Thibon, que j'ai bien connu aussi, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je commence donc par quelques mots sur Saint-Barthélemy, qui est l'un des 12 apôtres, n'est-ce pas, choisi par Jésus. Et il porte ce nom, donc, pour les évangélistes Matthieu, Marc et Luc, qui nous ont transmis, n'est-ce pas, une liste de ceux que le Seigneur avait choisi quand, après une nuit de prière, pour Jean, Saint Jean, qui nous a fait une espèce de récit de sa découverte personnelle, lui, du Christ. Barthélemy s'appelle Nathanaël, comme je viens de vous le dire, et aujourd'hui, on ne doute plus de ça. Cette interprétation des exégètes confirme la chose. Il était originaire de Cana, en Galilée, là où Jésus a fait son premier miracle, hein, en changeant l'eau en vin. Quelle bonne idée! Et Jean nous le présente comme un homme qui aimait lire la Bible, les Écritures. Mais si Nathanaël, ou Barthélemy si vous préférez, attendait le Messie, il était un homme assez rationnel. Il n'était pas prêt à croire n'importe quoi puis n'importe qui. Alors lorsque Saint Philippe, l'apôtre, là, vient lui dire, avec enthousiasme, hein, j'imagine, « Oui, nous l'avons trouvé, nous avons trouvé celui dont parlent la loi et les prophètes. » Calmement, notre Barthélemy Nathanaël demande à voir. Et il voit. Sa rencontre avec Jésus est décisive. Ah, si notre rencontre avec Jésus était décisive comme ça, nous serions tous des saints. D'ailleurs, le Seigneur... Jésus fait allusion, n'est-ce pas, à cette rencontre, et puis il dit, c'est dans l'évangile de Saint-Jean, voilà un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. En somme, c'est l'homme loyal, un véritable fils d'Israël, qui ne sait pas mentir. C'est ça que Jésus veut dire. Il sera d'ailleurs un témoin très sûr de la résurrection de Jésus. Et comme pour la plupart des apôtres, la Bible est presque muette sur lui après son engagement à la suite de Jésus. Saint Jean le mentionne encore une fois à la fin de son évangile en rapportant la fameuse pêche miraculeuse. Et il sera, c'est évident, bien sûr, là, au Cénacle, après l'Ascension, au moment de la Pentecôte, priant avec Marie et les autres apôtres. Sur son activité missionnaire après la Pentecôte, on n'a que des récits plus ou moins légendaires. On parle de l'Inde, de la Turquie, de l'Arménie. Il y a tellement de pays qui se revendiquent de sa prédication qu'on ne sait plus lequel a vraiment raison. De toute façon, le culte à Saint-Barthélemy, Nathanaël, a connu une grande diffusion, hein, et il est invoqué à travers les siècles pour toutes sortes de raisons, souvent un peu étonnantes, enfin. Et au moment aujourd'hui de l'écuménisme, là, puisque le jour choisi pour sa fête nous rappelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque année, ce fameux massacre trop célèbre, et bien plus regrettable encore que célèbre, on pourrait l'invoquer de part et d'autre pour qu'il nous rapproche, pour qu'il nous permette de nous aimer, protestants et catholiques. Eux qui ont recherché à réformer l'Église, désespérés de cette Église, ils ont cru bon de s'en détacher. Ça arrive aujourd'hui pour bien des catholiques qui se détachent de l'Église, hein, et qui croient trouver au cru de leur cœur une réforme en restant chez eux. Ça se fait aussi aujourd'hui. Moi, ça me brise un peu le cœur. Et je trouve que l'Eucharistie est tellement importante pour nous rassembler. Saint-Barthélemy est inscrit au calendrier liturgique de l'Église orthodoxe, hein, avec Saint-Barnabé. Eux autres, ils le célèbrent le 11 juin. Je vous ai dit que c'était aussi la fête de Jeanne Antide Touret, fondatrice des Sœurs de la Charité. Je résume très rapidement, je vous en parlerai l'an prochain. Elle est entrée à 22 ans chez les Filles de la Charité, puis elle a fondé à Besançon les Sœurs de la Charité de Besançon. C'était extraordinaire, hein? Elle est née en 1765, elle est morte en 1826, et elle dit des choses absolument étonnantes, et justement, elle parle à un moment donné. En 1805, elle parle des apôtres. Et voici ce qu'elle dit des apôtres. Je viens de vous parler de Saint-Barthélemy apôtre. Voici, ça va peut-être vous surprendre, mais je trouve ça très audacieux. Voilà. Les apôtres étaient grossiers, ignorants et méprisables. Mais ils avaient reçu l'Esprit de Dieu. Les sœurs de la charité le reçoivent aussi. Elles peuvent aller par toute la terre et encore sur mer, comme les apôtres. Quand Dieu, écoutez bien ça, c'est très beau, hein, elle fait le parallèle entre les apôtres et les sœurs de la charité. Quand Dieu appelle et qu'on l'entend, il donne tout ce qu'il faut. N'oubliez pas ça. N'hésitez pas, il donne tout ce qu'il faut. Pour ce qui est du massacre de la Saint-Barthélemy, j'y reviens deux secondes. Ça a eu lieu, n'est-ce pas, dans la nuit du 24 août 1572, c'est pas d'aujourd'hui. On s'est toujours demandé si c'était un coup préparé de longue main. Si ça avait été accompli avec une espèce d'habileté diabolique par la cour de France. Aujourd'hui, les historiens ne soutiennent plus ça, même les historiens protestants. On admet communément que le roi de l'époque, Charles IX, en France, là, a été déterminé soudainement, le 23 août, par qui? Par Catherine de Médicis, sa mère, a ordonné le massacre des Huguenots. C'est pour des questions d'intrigue et de politique. D'ailleurs, Catherine de Médicis elle-même C'était cette haine qu'elle portait au chef du protestantisme. Ça lui avait souvent suggéré l'idée de se débarrasser d'eux par l'assassinat, à défaut de moyens honnêtes et légitimes. Et c'est surtout Catherine de Médicis qui semble être vraiment responsable de ce massacre abominable. Les meilleurs historiens, un historien classique comme Albert Mallet, estiment que le nombre total pour toute la France a été de 8000 morts. Aujourd'hui, 8000 morts, nous sommes tellement habitués à des massacres de millions de gens ou de centaines de milliers de gens, qu'on se dit, 8000, mais c'est terrible quand même. C'est terrible et c'est inacceptable. On s'est aussi demandé si les papes avaient endossé la Saint-Barthélemy. On a accusé Saint Pie V d'en avoir approuvé l'idée. Et Grégoire XIII, son successeur, de s'être réjoui du massacre. Mais que faut-il penser de tout ça, hein? Il semble bien vrai que Pie V a eu vent du projet d'assassinat du principal protestant, de Coligny. Le 10 mai 1567, Don Juan de Cuneda écrivait de Rome, où il représentait l'Espagne, voici ce qu'il dit, « Le pape m'a dit en grand secret, les maîtres de la France méditent une chose que je ne puis ni conseiller ni approuver, et que la conscience réprouve. Ils veulent faire périr par pratique le prince de Condé et l'amiral Coligny. » De toute façon, il est mort le 1er mai 1572. Il n'y a pas eu à se prononcer par conséquent sur le meurtre de Coligny, ni sur la Saint-Barthélemy. Mais Grégoire XIII, son successeur, ne connut ces événements que par son once, le cardinal Salviati, et par la cour de France. La cour de France n'a pas manqué de faire savoir d'ailleurs au pape qu'elle avait échappé par le massacre au grave péril qui la menaçait, disait-elle. C'est ce que disaient les gens de la cour. Et ce fut sur ces indications que Grégoire XIII, a manifesté sa joie et qu'il a fait chanter ce fameux Te Deum en l'église Saint-Marc que les protestants reprochent à Grégoire XIII. De toute façon, tout cela s'explique par l'idée que le roi de France était, aux yeux de Grégoire XIII, en cas de légitime défense, le jour de la Saint-Barthélemy, puis que la France, qui se réclamait d'être très chrétienne, restera en danger tant que les protestants, les huguenots, ne seraient pas exterminés. Il va sans dire que pour le pape Grégoire XIII, comme pour Pie V, il s'agissait d'une guerre ouverte et légale, non pas d'un guet-apens comme la Saint-Barthélemy, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et maintenant, il me fait plaisir d'aborder quelqu'un qui m'est très très cher, la vie de Simone Veil et sa pensée. Je comptais le faire, j'avais mis déjà des dossiers de côté, quand j'ai reçu une grande enveloppe de M. Samuel Étier de Sorel, qui m'envoyait des photocopies merveilleuses de toutes sortes de choses au sujet de Simone Veil, extraites de livres que j'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque, car j'ai énormément de volumes de Simone Veil ou sur Simone Veil. Qui était cette Simone Veil? Simone Veil, Veil, W-E-I-L, c'est un nom juif. Simone Veil est née à Paris le 3 février 1909. Au 19 boulevard de Strasbourg. Et elle était la fille du docteur Bernard Veil et de Saloméa Reinherz-Veil, qui était née, elle, à Rostov-sur-le-Don, donc en Russie. C'était une femme assez étonnante. Elle disait qu'elle n'a reçu aucune éducation religieuse. J'ai été élevée par mes parents et par mon frère dans un agnosticisme complet. Elle a écrit ça au père Perrin, Joseph-Marie Perrin, ce dominicain aveugle, dont j'ai mentionné le nom au début de l'émission et que j'ai eu la chance de rencontrer dans une trappe où il avait été invité à prêcher une retraite à environ 60 prêtres séculiers de toute une région du sud de la France. Et je m'étais permis de prendre rendez-vous avec lui et d'aller dans sa chambre. Quand j'ai frappé à la porte de sa chambre, j'ai entendu à l'intérieur « Entrez, entrez !» Et je suis entré dans une chambre complètement noire. Car les stores étaient baissés, les volets fermés. Il était aveugle. C'était un dominicain aveugle. Et c'est un des plus grands dominicains de ce siècle qui a publié d'innombrables ouvrages, dont l'un des meilleurs sur Simone Veil, « Mon dialogue avec Simone Veil », publié chez Nouvelle Cité dans la collection « Rencontres », justement, « Rencontres ». C'est un livre qu'il faut lire. C'est une des plus belles choses. La première partie, c'est l'expérience spirituelle de Simone Veil, qui était comme une sorte de sainte en dehors de l'Église, si ardemment croyante à la divinité du Christ, et même à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, qu'on en est bouleversé. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle se fasse baptiser, mais elle a hésité. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Un des traits dominants de son enfance est un amour compatissant pour les malheureux. Elle avait 5 ans environ lorsque la guerre de 14 lui a fait découvrir la misère. Et d'une façon pratique, elle s'est occupée en particulier d'un soldat. Elle ne voulait plus prendre, d'ailleurs, toute jeune, un seul morceau de sucre, afin de tout envoyer le sucre à ceux qui souffraient au front. Quelle charmante petite fille, hein? Et pour comprendre le caractère extraordinaire de la compassion qui l'habitait, et qui sera, ne l'oubliez jamais, un des traits dominants de sa vie, c'était une jeune femme qui avait de la compassion et d'une tendresse énorme pour les ouvriers et les pauvres, un sens de la justice sociale exceptionnel. Ce sera d'ailleurs un des traits dominants de sa vie, mais pour se comprendre ça, il faut se souvenir de l'aisance dans laquelle elle est née, de l'aisance matérielle, puis de la largeur d'esprit, puis de l'affection, dont ses parents, incroyants, n'ont jamais cessé de l'entourer. C'était exceptionnel. En août 1914, son père, le docteur Veil, est mobilisé. Sa famille va l'accompagner au hasard de ses affections militaires, l'affectation militaire, pardon. Alors, c'est là qu'elle a participé et exercé cette compassion exceptionnelle. En 1919, ils sont revenus à Paris, toute la famille. Et le 3 octobre, elle entre au lycée Fénelon. Elle n'a que 10 ans, quoi. Mais sa santé fragile la contraint à de nombreux congés, au cours desquels elle reçoit des leçons particulières. En 1923, il y a une crise de désespoir adolescent, là. Elle dit, à 14 ans, je suis tombée dans un de ces désespoirs sans fond de l'adolescence, et j'ai sérieusement pensé à mourir, à cause de la médiocrité de mes facultés naturelles. Elle raconte tout ça dans une longue lettre au père Perrin, et il faut lire ça. C'est absolument merveilleux. C'est dans un livre qui s'appelle « Attente de Dieu ».« Attente de Dieu ». Oh, quel livre exceptionnel publié chez Fayard, hein, dans la collection « Livre de vie ». C'était « Livre de vie », c'est si vous connaissez pas ça, il faut vous, attardez-vous dans une librairie à regarder toute la collection. Ce sont les meilleurs livres de vie chrétienne. C'est le sous-titre. C'est publié donc chez Fayard c'est admirable, admirable. Attente de Dieu. Avec une préface du père Perrin. La préface est passionnante. Je m'en inspire d'ailleurs pour vous parler de Simone Veil. Et alors, en 1924, en octobre, elle entre au lycée Victor Duruy. Et puis, elle y suit les cours de philosophie de René Le Sen. Elle se lie d'amitié, René Le Sen était très réputé, hein. Elle se lie d'amitié avec Suzanne Gauchon, qui sera, imaginez, la future épouse de Raymond Aron. Hein. Et puis, par Suzanne Gauchon, elle se lie d'amitié avec nul autre que la fille de Jacques Copeau, le grand homme de théâtre, là, Edwige Copeau, qui se fait moniale bénédictine. Oui, la fille de Jacques Copeau. En 1925, en octobre, elle entre en hippocagne. Qu'est-ce que c'est? C'est la classe préparatoire, là, au concours d'entrée, à l'école normale supérieure. C'est très sérieux. Hein? Elle y sera pendant 3 ans l'élève de Émile Chartier. Et qui est Émile Chartier? C'est nul autre que Alain. Alain. Il signait comme ça. J'espère que vous connaissez les œuvres d'Alain. J'ai regardé dans ma bibliothèque, dans ma série de livres, une immense collection que j'ai, des collections de la Pléiade, et j'ai retrouvé les propos d'Alain avec une préface d'André Mauroy. Les propos s'étendent de 1906 à 1936. C'est assez curieux et assez particulier. Il y a aussi les arts et les dieux, et puis les passions et la sagesse. Dans les arts et les dieux, j'ai retrouvé des passages qui peuvent donner une idée de ce qu'était ce professeur qui l'a énormément marqué, qui a une influence énorme sur lui, sur elle. Dans les définitions, un peu, c'est à la page 1040, c'est énorme, ces bouquins-là. Alors, il y a un texte sur la charité qui dit « C'est la foi quand elle a pour objet le semblable. » C'est très beau, hein? Sur le chrétien, il dit « L'esprit chrétien enferme le mépris des puissances, le respect de toutes les âmes, comme étant également digne d'être sauvé. » Et ça, ça va marquer Simone Veil de façon fantastique. Alain ajoute « Et enfin, une préférence que le chrétien a pour la pauvreté et le travail, par le sentiment de la faiblesse de l'homme devant les séductions de tout ordre. » On dirait que c'est le résumé de la vie de Simone Veil. Et quand il fait la définition du christianisme, Alain écrit « C'est le culte de l'esprit crucifié. » Tout à fait la pensée de Simone Veil. Hein? « C'est le culte de l'esprit crucifié, ce qui implique un conflit entre l'esprit et les pouvoirs et un parti pris contre les pouvoirs. » Tout à fait Simone Veil. Hein? « C'est une maxime chrétienne qu'on ne peut à la fois exercer le pouvoir et sauver son esprit. L'esprit lié au sort d'un corps, c'est l'âme, etc. » C'est très très beau, hein, Alain, mais c'est pas facile à lire toujours. Donc, il y a 3 volumes dans la collection de la Pléiade que j'ai, moi, il y en a peut-être 2 qui ont été publiés par après, j'ignore. Et alors, en 1926, en février, elle compose un essai sur le beau et le bien, particulièrement apprécié par son maître Alain. Et 2 ans plus tard, en 1928, en juillet, Simone, à 19 ans, est reçue au concours d'entrée de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Ce qui n'est pas facile, à 19 ans. C'était une fille brillante, exceptionnelle. Et à la rentrée d'octobre, au lycée Henri IV, elle continue à suivre les cours d'Alain et va entendre ceux de Léon Brunswick à la Sorbonne. Elle participe à l'Université populaire parisienne, une université populaire parisienne qui s'intéresse aux problèmes des ouvriers. Elle s'intéresse aussi à diverses actions syndicales et antimilitaristes. En 29, au début de l'année, elle s'inscrit à la Ligue des droits de l'homme. Mais je vous fais grâce de toutes sortes d'activités qu'elle a eues. C'est tellement fantastique pour une jeune fille de 20 ans, tellement énorme qu'on reste ébloui. En 1930, c'est en cette année que commencent les maux de tête, qui la feront cruellement souffrir jusqu'à la fin de sa vie. Elle a 21 ans. Elle souffrira de ça jusqu'à 34 ans, au moment où elle meurt. En 1931, en juillet, elle est reçue à l'agrégation de philosophie. Elle est nommée professeure de philosophie au lycée de jeunes filles du Puy. Elle a 22 ans. Durant l'automne, les premiers contacts avec les milieux syndicalistes révolutionnaires de Saint-Étienne dans le Sud, elle a une activité résolue là, en faveur des grévistes, les chômeurs du Puy. C'est assez extraordinaire. Et pendant les années d'école, elle s'est montrée vraiment anti-talas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les gens qui rejettent les élèves qui vont à la messe. Ceux qui vont à la messe, c'est les talas. Alors, elle est anti-talas. Elle est athée. Elle était même assez anti-religieuse pour se brouiller quelques mois avec une camarade qui s'est convertie au catholicisme. Elle abordait la vie d'enseignante et son action humaine s'accomplissait dans un complet agnosticisme. Elle ne voulait pas se poser le problème de Dieu. Elle ne pouvait se résoudre à l'énigme de la destinée. À cette époque, elle entra en contact avec le mouvement syndicaliste et la révolution prolétarienne. Et désormais, elle n'a jamais cessé de collaborer à tous ces mouvements. Elle s'est jamais, par contre, inscrite dans aucun parti. Et jamais, elle n'a parlé au père Perrin, qui l'a accompagnée pendant près d'un an, des personnalités importantes. Elle ne s'intéressait pas aux personnalités importantes qu'elle a eu l'occasion de rencontrer ou d'aider, ni du rôle qu'elle a eu à jouer. Elle savait respecter ce prêtre, le père Perrin. Parce que si un prêtre se sent lié à tout le progrès humain, il doit évidemment se tenir aussi loin que possible de toute question politique, et on le sait. On l'a vu ici avec le père Jacques Couture, qui était ministre de l'immigration au Parti québécois, qui a dû quitter les jésuites, et finalement, après ça, bien, il est redevenu jésuite et missionnaire à Madagascar, où il est décédé récemment. Alors, pour elle, pour Simone Veil, aussi, c'était l'amour des malheureux qui dominait. Et un de ses compagnons de lutte sociale, un jeune ouvrier, disait au père Perrin, c'est formidable, hein, elle n'a jamais fait de politique, et il ajoutait, si tout le monde était comme elle, il n'y aurait plus de malheureux. Mais cette compassion des malheureux, c'est un des traits essentiels de sa vie profonde. Simone était loin de se sentir satisfaite. La compassion, c'est un tourment. Et en 1934, elle a décidé de prendre, dans toute sa dureté, la condition ouvrière. Elle s'est faite ouvrière, elle y a connu la faim, la fatigue, les rebuffades, oh, puis toute la pression du travail à la chaîne, l'angoisse du chômage. C'était pas rien qu'une expérience, c'était une incarnation réelle et totale. Et son journal d'usine, c'est un témoignage poignant, saisissant. L'épreuve a surpassé ses forces. Son âme a été comme écrasée par cette conscience du malheur. Elle en restera marquée toute sa vie. Simone Veil, en 1933, le dernier jour de l'année, le 31 décembre, elle a rencontré, pas n'importe qui, Léon Trotsky. Et où est-ce qu'elle le rencontre? C'est parce qu'il est hébergé chez ses parents, rue Auguste Comte, où ils avaient déménagé. Léon Trotsky, vous le savez, n'est-ce pas? Il est mort en 1940, 7 ans après cette rencontre. C'était un Russe d'origine juive. C'était un des chefs de la révolution d'octobre 1905 en Russie. C'était un des partisans de la prise du pouvoir, n'est-ce pas, par les bolcheviks. En novembre 1917, au grand moment de la révolution communiste, puis il était en désaccord avec Staline, qu'il sentait qu'il allait être exécuté, alors il s'est sauvé de la Russie en 1929, et finalement, Staline a réussi à le rejoindre au Mexique, mais enfin, par intermédiaire, évidemment, il est assassiné en 1940. Et puis, à l'automne, elle achève la rédaction de ses réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, qu'elle nomme volontiers son grand œuvre. Ça lui vaut des félicitations fantastiques du fameux Alain, son ex-professeur. Le 4 décembre, elle entre comme manœuvre, comme je vous ai dit, chez Alstom. C'est là qu'elle est entrée, à Paris. C'est un travail, dit-elle, très pénible. Non seulement chaleur intolérable, mais les flammes vont jusqu'à vous lécher les bras et les mains. Il faut dompter les réflexes pour sous peine de louper, qu'elle écrit dans son journal d'usine. Mais elle est mise à pied, finalement. En 1935, elle reprend le travail, au début de l'année. Puis, elle souffre d'une otite, elle est en convalescence, elle retourne à l'usine, elle est remise à pied, elle quitte définitivement l'usine. Et là, elle travaille du 11 avril au 7 mai aux établissements Carnot, dans des forges de Basse-Indre. Elle dit, la soi-disant petite boîte sympathique s'est avérée être au contact d'abord une assez grande boîte et puis surtout une salle, une très sale boîte. Et dans cette sale boîte, il y a un atelier particulièrement dégoûtant, c'est le mien. Alors elle goûte au travail des ouvriers, là. Des fois on en voit dans le métro, ils sont un peu avec leur boîte et à lunch ou quelque chose, puis sont les mains sales et tout ça, là, je me dis, quelle vie, que ça va donc être dur. Ben, elle y a goûté. Et puis, à la fin de l'année 35, elle demande sa réintégration dans l'enseignement. c'est-à-dire le 31 mai, qui est aussi là qu'elle veut retourner à l'enseignement. Elle passe l'été comme fraiseuse quand même, chez Renault, fabrique des voitures. Puis en mi-septembre, elle fait un voyage au Portugal, en Espagne. C'est en ce dernier pays, au Portugal, là, surtout, c'est au Portugal, que Simone a éprouvé, le jour de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, ce premier des contacts avec le catholicisme qui ont vraiment compté pour elle. C'était une cérémonie, une grande cérémonie typique du Portugal avec des processions le soir, et elle dit, là, j'ai eu soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves, que les esclaves ne peuvent ne pas y adhérer, et moi parmi les autres, parce qu'elle se sent petite esclave. Bien qu'elle soit géniale avec son cerveau, elle sait bien que tout être humain sont égaux, tous les êtres humains sont égaux. Et elle s'est faite petite parmi les plus petits, et elle comprend que dans le catholicisme, les petits, les esclaves, sont libérés. Par cette aspiration qu'ils ressentent, hein, au cru de leur foi, une aspiration qui les plonge dans le cœur de Dieu. Pour elle, c'était une cérémonie, une grande cérémonie typique du Portugal avec des processions le soir, et elle dit, là, j'ai eu soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves, que les esclaves ne peuvent ne pas y adhérer, et moi parmi les autres, parce qu'elle se sent petite esclave. Bien qu'elle soit géniale avec son cerveau, elle sait bien que tout être humain sont égaux, tous les êtres humains sont égaux. Et elle s'est faite petite parmi les plus petits, et elle comprend que dans le catholicisme, les petits, les esclaves, sont libérés. Par cette aspiration qu'ils ressentent, hein, au cru de leur foi, une aspiration qui les plonge dans le cœur de Dieu. Au mois d'octobre, elle est professeure au lycée de Bourges. Et les jours de congé, elle va travailler de temps en temps dans une ferme. Parfois, le matin, elle assiste à la messe dans la cathédrale. Alors, elle découvre petit à petit le sens du « et elle s'est faite petite parmi les plus petits ». Elle comprend que dans le catholicisme, les petits, les esclaves, sont libérés. Par cette aspiration qu'ils ressentent, hein, au cru de leur foi, une aspiration qui les plonge dans le cœur de Dieu. Au mois d'octobre, elle est professeure au lycée de Bourges. Et les jours de congé, elle va travailler de temps en temps dans une ferme. Parfois, le matin, elle assiste à la messe dans la cathédrale. Alors, elle découvre petit à petit le sens du véritable christianisme. Elle entretient une correspondance sur les problèmes de la vie à l'usine avec différentes personnes, et particulièrement avec vie à l'usine avec différentes personnes, et particulièrement avec Victor Bernard. Puis, lorsqu'éclate en 1936 la guerre d'Espagne, Simone, qui avait largement pris part aux grèves sur le temps, elle n'hésite pas à partir pour le front à Barcelone. Puis un accident causé par son manque d'habileté, elle s'est ébouillantée avec de l'huile, l'oblige à évacuer, hein. Mais elle parlait guère de cet événement de sa vie, et si ce n'est que pour un témoignage à tel ou tel de ses compagnons d'armes durant cette guerre terrible en Espagne en 1936. Et puis, elle voyage en Italie aussi. Elle entend la messe de la Pentecôte à Saint-Pierre et à Assise. C'est à Assise que se produit le second de ses contacts majeurs avec le christianisme. Elle écrit, là, étant seule dans la petite chapelle romane du XIIe siècle de Santa Maria degli Angeli, incomparable merveille de pureté, où Saint François priait bien souvent, quelque chose de plus fort que moi m'a obligé pour la première fois de ma vie à me mettre à genoux. Quand on se met à genoux pour vrai, là, quelle grâce nous habite. Pas se mettre à genoux de façon mécanique, là. Se mettre à genoux comme sans doute elle s'est mise à genoux. Reconnaître l'existence de Dieu, sa tendresse et son amour. Ça change tout. Et à la fin de l'année 37, et au début de la suivante, elle rédige une étude sur les contradictions du marxisme, examen critique des idées de révolution et de progrès. Elle se détache. En 1938, elle assiste à la Semaine Sainte à l'abbaye de Solesmes chez les bénédictins. Quelques mois plus tard, c'est la grande illumination qui a changé sa vie. Elle dit, et c'est très beau, il faut lire ce texte, c'est magistral, « Le Christ est descendu et m'a prise ». Oh, c'est pas de l'illusion, hein, quand on lit, il faut lire les textes, hein, c'est absolument bouleversant. De toute façon, il est difficile de déterminer avec précision la date de cet événement. Elle en a gardé jalousement le secret. Aucun de ses papiers personnels n'en parle. Aucun de ses intimes n'en a eu la confidence. À part la lettre à Joé Bousquet, où elle y fait allusion. Et ce qu'elle en a dit au père Perrin de vive voix ou par écrit. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'au milieu de tous les tâtonnements de sa richesse et de toutes les oscillations, si on peut dire, de sa pensée, elle n'est jamais revenue là-dessus. Dans l'expérience de ce sentiment inconnu, elle a porté un regard tout nouveau sur le monde. Et là, ses poésies, ses traditions religieuses et surtout... sur l'action au service des malheureux, elle regardait ça autrement. Elle a intensifié tous ses efforts. Elle est devenue une sorte de sainte en dehors de l'Église, mais elle avait certains défauts. Elle s'est plongée dans l'histoire des religions. Elle a eu aussi une expérience mystique extraordinaire. Elle dit, c'est au cours d'une de ses récitations d'un poème qui s'appelait « Love » qu'un Anglais lui avait donné, que le Christ lui-même est descendu et m'a prise, dit-elle. C'est à ce moment-là. Alors, on sait que c'était en novembre, décembre, en 38 à peu près. En 1939, elle rédige ses réflexions en vue d'un bilan, puis elle abandonne radicalement son pacifisme antérieur. Elle se rend compte que ça n'a pas de sens, car la guerre s'en vient. C'est l'entrée des nazis à Prague, et là, elle voit bien qu'il faut se combattre quand même. Le pacifisme, d'accord, mais pas absolu, c'est pas possible. D'ailleurs, elle se rend compte que la vérité, c'est là qu'il faut rechercher le sens de sa propre vie. Et au printemps de 1940, elle a commencé une pièce qui s'appelait « Venir sauver ». Elle lit les textes sacrés de l'Inde, elle s'enthousiasme pour la Bhagavad Gita. Elle dit « C'est en lisant ces paroles merveilleuses et d'un son tellement chrétien » sont mises dans la bouche d'une incarnation de Dieu, que j'ai senti avec force que nous devons à la vérité religieuse bien autre chose que l'adhésion accordée à un beau poème. Ceux qui disent « Ah, j'aime bien tout ce qui est religieux, j'aime écouter toutes sortes de choses religieuses, mais pour moi c'est comme un beau poème », faudrait peut-être qu'ils lisent Simone Veil pour se rendre compte que les vérités religieuses sont des vérités concrètes. Comme disait Didier de Coin à l'émission Rencontre, où nous l'avions interviewé chez lui en France, les vérités obscures en apparence et invisibles sont plus concrètes que la table que j'ai devant moi, puis a donné un coup de poing sur la table. Quand on se convient, elle a commencé une pièce qui s'appelait « Venir sauver ». Elle lit les textes sacrés de l'Inde, elle s'enthousiasme pour la Bhagavad Gita. Elle dit, c'est en lisant ces paroles merveilleuses et d'un son tellement chrétien, qui sont mises dans la bouche d'une incarnation de Dieu, que j'ai senti avec force que nous devons à la vérité religieuse bien autre chose que l'adhésion accordée à un beau poème. Ceux qui disent, ah, j'aime bien tout ce qui est religieux, j'aime écouter toutes sortes de choses religieuses, mais pour moi c'est comme un beau poème. Faudrait peut-être qu'il lise Simone Veil pour se rendre compte que les vérités religieuses sont des vérités concrètes. Comme disait Didier de Coin à l'émission Rencontre, où nous l'avions interviewé chez lui en France, les vérités obscures en apparence et invisibles sont plus concrètes que la table que j'ai devant moi, puis a donné un coup de poing sur la table. Quand on se convertit, on sent bien que les choses invisibles sont beaucoup plus concrètes que les choses visibles. Elle n'a pas quitté Paris tout de suite, même quand la capitale a été déclarée ville ouverte. Finalement, elle est partie pour Marseille. Évidemment que la décision de la haute administration qui frappait les Juifs l'a atteinte. Et en juin 41, elle est allée voir le père Perrin. Et dans l'une de leurs premières rencontres, elle a parlé de son désir de partager la condition et les labeurs du prolétariat agricole. Et le père Perrin s'est rendu facilement compte qu'il ne s'agissait pas d'une idée réfléchie, mais vraiment d'une volonté profonde. Et le père Perrin a demandé à Gustave Thibon de l'aider. Elle a passé comme ça plusieurs semaines dans la vallée du Rhône. Elle a connu le dur travail des vendanges. À Marseille, son extrême réserve, sa pudeur d'âme, cachaient ce qu'il y avait d'inflexible chez elle et d'inébranlable. Il y avait quelque chose qui l'empêchait de se faire baptiser. Et c'était très, très, très subtil. Elle s'en explique dans une longue lettre au père Perrin, qu'on peut lire dans « Attente de Dieu ». Elle les a lus à quelques amis dans des réunions tout intimes. Elle s'appliquait à communiquer son amour de la Grèce et surtout des réalités atteintes par les grands mystiques, car elle croyait les grands mystiques. Elle vibrait de ça. Mais par contre, elle avait des lectures étranges, des lectures de choix à cette époque. Il est assez remarquable qu'elle se soit attachée d'ailleurs aux mémoires du cardinal de Retz. Je suis allé les reconsulter dans ma bibliothèque. Je n'y trouve, moi, pas tellement d'intérêt. J'ai déjà essayé de lire ça plusieurs fois, je n'y arrive pas. Elle s'est intéressée aussi au tragique d'Aubigné, n'est-ce pas, ce calviniste du XVIIe siècle, qui était un aïeul de Madame de Maintenon. Hein. Ça aussi, je suis incapable de lire ça, j'y arrive pas. C'est dans ma bibliothèque, mais ça dort là. D'ailleurs, le cardinal de Retz, c'était un étrange personnage. Dans ses mémoires, il dit en page 33, en parlant de Saint-Vincent de Paul, « Monsieur Vincent, qui m'avait appliqué ce mot de l'Évangile, que je n'avais pas assez de piété, mais que je n'étais pas trop éloigné du royaume de Dieu. » Ce cardinal, il n'était pas trop éloigné du royaume de Dieu, mais il n'avait pas assez de piété. C'est ce genre de cardinal que l'État imposait à l'Église quand l'État nommait les évêques et avait une influence énorme sur la nomination des cardinaux et même parfois sur l'élection des papes. Le pouvoir politique a détruit en grande partie les valeurs les plus belles de l'Église, et que c'est triste quand on lit l'histoire. Et l'exemple du cardinal de Retz est, à mon sens, assez tragique. Elle a fait des lectures, donc très variées. Elle écrivait constamment, mais ça remplissait pas sa vie. Le goût de son esprit, la volonté de compassion qui l'ont caractérisé toute sa vie, ça pouvait pas la laisser étrangère à la vie des plus malheureux, alors elle les recherchait. Elle se mêlait à eux pour les connaître, les aider. Elle s'est intéressée tout particulièrement aux Vietnamiens qui étaient démobilisés, hein, et qui attendaient leur rapatriement. Elle a constaté l'injustice de leur sort. Dans une circonstance, cet amour des êtres lui a sauvé la vie d'ailleurs. Elle avait été arrêtée pour gaullisme, imaginez. Elle avait été longuement interrogée, elle avait été menacée de prison. Où elle, écrit-elle, agrégée de philosophie, serait mêlée aux prostituées. Elle faisait cette sensationnelle réponse à celui qui la menaçait de la jeter en prison avec les prostituées. Elle dit « J'ai toujours désiré connaître ce milieu et pour y entrer, je n'ai jamais vu qu'il puisse y avoir pour moi un autre moyen que celui-là, la prison. » Elle était contente d'entrer en prison pour être en contact avec les prostituées. Alors, à ces mots, le juge de faire le signe à son secrétaire de la relâcher, car le juge l'a considérée comme folle. Nous en sommes au chapitre des clandestinités, n'est-ce pas? Simone s'est donnée à la diffusion de témoignages chrétiens, ce journal secret qui surgit durant la guerre. Elle a préféré ces mouvements à ceux qui existaient alors, sur d'autres mouvements. Plus tard, pour obtenir de se faire parachuter en France, elle a fait valoir les liens qui l'unissaient avec les organisateurs du mouvement. Elle a écrit à ce propos à Maurice Schumann. Oh, Maurice Schumann, quel homme politique que nous avons eu la chance d'interviewer à rencontre aussi. Je crois que c'est de loin ce qu'il y a de meilleur en France en ce moment, puisqu'il ne leur arrivait aucun malheur. Elle admirait beaucoup tous ceux qui imprimaient témoignages chrétiens. Elle avait une grande préoccupation, sa préoccupation religieuse. Elle a scruté l'Évangile. Elle discutait avec ses amis qui aimaient de la retrouver à la messe du dimanche, car elle allait à la messe. Fréquemment, elle y venait voir le père Perrin. Pour avoir plus de solitude, elle assistait parfois en semaine à une messe très tôt le matin. Mais elle ne communiait pas, ne pouvait pas. C'est à cette époque qu'elle a écrit au père Perrin, « Mon cœur a été transporté pour toujours, je l'espère, dans le Saint-Sacrement exposé sur l'autel. » Quelle foi! « Mon cœur a été transporté pour toujours, je l'espère, dans le Saint-Sacrement exposé sur l'autel. » Ce mot en dit long, sur l'attrait qu'exerçait sur elle le silence vivant de l'Eucharistie. Le silence vivant de l'Eucharistie. Elle souffrait comme d'une désertion d'avoir quitté la France, car elle a quitté la France à un moment donné. Elle est partie pour les États-Unis d'Amérique pour y accompagner ses parents. Et au cours d'une longue escale de 17 jours au camp d'Aïn Seba près de Casablanca, Simone a écrit Intuition chrétienne et cette fameuse dernière lettre au père Perrin dont je vous ai parlé. Intuition chrétienne, c'est à lire. J'avais ça dans ma bibliothèque, dans un vieil exemplaire tout jauni. J'en m'en suis procuré un autre plus beau. Édition plus récente chez Fayard. C'est bouleversant à lire. Ce que j'ai le plus aimé peut-être, ce sont les pensées sans ordre concernant l'amour de Dieu chez Gallimard, car il y a beaucoup de choses chez Gallimard aussi. Des ouvrages magistraux. Elle dit, « Je vous en prie, faites-moi venir à Londres, c'est quand elle est à New York, ça. Ne me laissez pas dépérir de chagrin ici. Je fais appel à vous pour me sortir de la situation morale par trop douloureuse où je me trouve. Or, je vous supplie de me procurer, si vous le pouvez, la quantité de souffrance et de danger utile qui me préservera d'être stérilement consumé par le chagrin. » Elle dit cette belle phrase, « Je ne peux pas vivre dans la situation où je me trouve en ce moment. Cela m'amenait tout près du désespoir. » Elle écrit ça à Maurice Schumann. Elle éprouve le désespoir. Elle a les sentiments que la plupart d'entre nous ont éprouvés dans nos vies. On éprouve ça, le désespoir, à un moment donné. Et son amour de déshérité ne l'a jamais quitté. Elle écrit de New York, « J'explore Harlem. Je vais tous les dimanches dans une église baptiste de Harlem, où, sauf moi, il n'y a pas un blanc. » Simone Veil entrait en contact avec des jeunes filles noires, elle les invitait chez elle, et à un ami auquel elle avait écrit, le père Perrin a reçu cette confidence, il est certain que si Simone était restée à New York, elle se serait faite noire. Et pourquoi pas? C'est existé. Un jour, je vous parlerai de certaines personnes qui se sont faites noires pour vivre parmi les Noirs, à Harlem, des chrétiens admirables, comme des petits frères de Jésus, des petites sœurs de Jésus, et des laïcs fantastiques. Pensez à la baronne de Huec, cette sainte qui est morte en Ontario. Le cœur de Simone Veil était dans l'univers. Elle écrit, « Le malheur répandu sur la surface du globe terrestre m'obsède et m'accable, au point d'annuler mes facultés. Et je ne puis les récupérer, me délivrer de cette obsession, que si moi-même j'ai une large part de danger et de souffrance. C'est donc une condition pour que j'aie la capacité de travailler. » Elle veut travailler pour aider les pauvres. Elle est mobilisée jusqu'au fond de son cœur. Et à Londres, où elle est arrivée à la fin de novembre 42, elle a eu une déception très cruelle. Elle n'avait qu'un but. Elle voulait obtenir une mission pénible, dangereuse, elle voulait se sacrifier utilement, soit pour sauver d'autres vies, soit pour accomplir un acte de sabotage. Elle l'a demandé de vive voix, elle insiste par écrit,
elle dit, « Je ne peux m'empêcher d'avoir l'impudeur, l'indiscrétion des mendiants. Comme les mendiants, je ne sais en guise d'argument que crier mes besoins. »
Mais personne n'a osé accepter sa demande. On l'a consacrée à certains travaux de réflexion. Elle a passé des heures dans son bureau. Elle s'est nourrie souvent d'un simple sandwich. Elle restait là le soir. Et quand elle avait laissé passer l'heure du dernier métro, elle y dormait, appuyée sur la table ou étendue par terre. Quand elle suppliait avec insistance pour obtenir la mission qu'elle souhaitait, elle notait « L'effort que je fais ici sera dans peu de temps arrêté par une triple limite. L'une morale, car la douleur de me sentir hors de ma place, croissant sans cesse, finira malgré moi, je le crains, par entraver ma pensée. » Et elle est tombée malade et rapidement, en avril, il a fallu se rendre à la réalité. On l'a fait admettre à l'hôpital de Middlesex et les soins qu'elle y a reçus n'ont pas servi à la rétablir. Elle avait une extrême faiblesse. Elle a désiré la campagne, elle l'a obtenue. Elle a été transférée au sanatorium d'Ashford, dans le sud de l'Angleterre, puis elle est morte là, le 24 août. Elle s'est éteinte. Je dirais, le 24 août, car c'est une flamme, le 24 août 1943, et à travers les textes des semaines qui précèdent sa mort, il semble bien qu'elle restait encore très éloignée en de nombreux points de la foi catholique, dans sa plénitude. Ce qu'elle reprochait à la foi catholique, c'était les condamnations, ce qu'elle appelait les anathémacites, qu'ils soient anathèmes. Et elle ne comprenait pas cette parole qui la troublait beaucoup, « Hors de l'Église, point de salut ». Pourtant, hors de l'Église, point de salut, on me l'expliquait quand j'étais jeune, ma mère m'expliquait ça dans les années 30. Hors de l'Église, volontairement, quand on sait que l'Église est la vraie, et qu'on la quitte en claquant les portes pour satisfaire des besoins égoïstes et qui n'ont pas de sens, pas pour des raisons légales, mais qu'on la quitte par... un rejet quand on sait qu'elle est vraie. C'est ça que je veux dire. Ou bien hors de l'Église, point de salut, c'est-à-dire hors de cette immense Église, l'Église du baptême de désir aussi, ceux qui désireraient être chrétiens ou catholiques, ou ceux qui cherchent la vérité avec une grande honnêteté, y compris, à mon avis, au risque de scandaliser certains auditeurs, y compris des agnostiques et des athées qui, du fond de leur cœur, recherchent avec profondeur la vérité. Comme Simone Veil, mais elle avait la foi chrétienne. Comme tant d'autres, il faut, quand on la lit, distinguer dans tout ce qu'elle écrit, ce qui procède d'une conviction profonde, et ce qui est aussi ou transverbal, car c'était une petite fille, on l'a vu, dans les textes qui nous racontent sa vie par différentes personnes, on voit qu'elle était très étrange, très étrange. Oh mon Dieu, c'était une petite fille mal fichue, mal habillée. Elle était très particulière, elle fumait beaucoup, hein. Elle roulait elle-même ses cigarettes, elle était couverte de tabac. Elle avait un type sémite assez... alors elle portait des tailleurs de coupe masculine, les poches latérales toujours pleines de tabac. Elle était chaussée de souliers à talons plats, comme une petite fille. Elle parlait sur le même ton. Elle reniflait d'ailleurs après chaque phrase. Ses amis disaient que son discours tenait des sermons des sœurs de l'armée du salut. C'est ceux qui ne comprenaient rien, rien à rien. Elle était une fille extraordinaire. Elle s'est penchée sur la grande tradition spirituelle à l'humanité. Et pour elle, le christianisme, c'était la plus haute expression de cette tradition spirituelle. Elle n'est jamais rentrée dans l'Église catholique, mais elle se disait chrétienne. Elle aura ce mot, il est plus facile de mourir dans l'Église que d'y entrer. Parce que pour y entrer, il fallait accepter des choses que le Concile Vatican II a bien corrigé. Et je suis sûr qu'après le Concile Vatican II, il me semble en tous les cas,
elle se serait fait baptiser. On a souvent dit que c'est parce qu'elle ne voulait pas se détacher des Juifs, mais je crois que ce n'est pas exact. En tous les cas, elle ne le dit pas de façon précise. Elle écrit, « La partie supérieure de l'âme qui se nourrit ne se nourrit que de faim. » L'amour est une chose divine. S'il entre dans un être humain, il le brise. Et que Dieu soit bon, que Dieu nous aime, elle le croit. Mais elle a une réponse déroutante. Elle dit, il aime non pas comme j'aime, mais comme une émeraude est verte. Elle signifie probablement par là que nous ne savons pas comment Dieu nous aime. Elle dit, je sais bien qu'il ne m'aime pas. Comment pourrait-il m'aimer? Et pourtant, au fond de moi, quelque chose, un point de moi-même, ne peut pas s'empêcher de penser en tremblant, de peur que peut-être, malgré tout, il m'aime. En somme, Simone Veil était une sainte, un peu comme cette Edith Stein qui n'a pas suivi le même trajet, Edith Stein dont je vous ai parlé, cette autre juive allemande, celle-là, qui s'est fait carmélite et qui est morte martyr. Durant la guerre aussi, deux juives admirables. J'aime beaucoup Simone Veil, mais je ne la suis pas dans certains de ses détails. Mais il faut lire et relire ce qu'elle écrit et qui est si beau. Je prends les dernières paroles de ce beau livre qui s'appelle L'Enracinement. Il est facile de définir la place que doit occuper le travail physique dans une vie sociale bien ordonnée. Il doit en être le centre spirituel. Pour elle, tout est spirituel. Et ce que nous accomplissons, tout simplement, c'est spirituel. Cette mystique exceptionnelle est morte un 24 août. Simone Veil.